Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Devenir végétarien en 90 jours. Je suis Alexandra Balik, la diététicienne nutritionniste du blog. Dans cet épisode, je vais vous parler comment éviter une carence en fer. Certains se demandent peut-être si on peut devenir végétarien si on a une anémie ferriprive, c'est-à-dire une anémie causée par un manque de fer. D'autres ont peut-être peur de la carence, que la carence s'installe en devenant végétarien. C'est vrai que le fer est très présent dans la chair animale, mais les aliments d'origine végétale en sont également pourvus. On vous a peut-être dit que le fer présent dans les lentilles était moins bien absorbé que celui de la viande. En effet, c'est vrai, mais on va voir que le fer présent dans la chair animale n'a pas un taux d'absorption très élevé non plus. Et nous allons vous donner des astuces pour augmenter l'absorption du fer, ainsi que quelques idées recettes pour faire le plein de fer. Bonne écoute! Je vais commencer par le rôle du fer pour l'organisme. Donc, notre organisme est composé d'environ 4 g de fer et 70% est présent dans l'hémoglobine et la myoglobine. Le reste sera surtout dans les réserves. Notons que l'hémoglobine constitue les globules rouges afin de transporter de l'oxygène dans l'organisme. Et la myoglobine se trouve dans les muscles et permet de stocker de l'oxygène pour être utilisé rapidement par les muscles en cas de sollicitation. Le fer a donc un rôle très important car l'oxygène va se fixer sur le fer pour permettre la bonne oxygénation de toutes nos cellules et leur permettre un bon fonctionnement. Le fer a d'autres rôles. Il intervient dans la synthèse de l'ADN, dans la défense contre les radicaux libres, qui pourraient entraîner un stress oxydatif et un vieillissement cellulaire prématuré. Le fer issu de l'alimentation va permettre de combler les pertes, notamment chez la femme, lors des menstruations, ainsi que dans certaines maladies ou situations physiologiques qui peuvent augmenter le besoin de l'organisme. Parlons un peu de la carence et de l'excès en fer. On parle très souvent du risque de carence car en effet cela touche beaucoup de femmes en cause les pertes plus ou moins importantes via les menstruations. En fonction de l'état des réserves et de l'importance de la baisse du taux d'hémoglobine, vous pourrez ressentir de la fatigue, une limitation pour faire des efforts, avoir un teint pâle. Vous pourriez également avoir les ongles mous, cassants, les cheveux secs et cassants, une peau sèche, les commissures des lèvres qui se déchirent. Il est possible également d'avoir de la tachycardie, c'est-à-dire que le rythme cardiaque augmente anormalement. Un excès de fer n'est pas bon non plus car le fer est une molécule pro-oxydante. On peut parler aussi de l'hémochromatose, c'est une maladie génétique, où il y a une hyperabsorption intestinale de fer, ce qui va entraîner sur le long terme des dépôts de fer sous forme de ferritine sur différents organes, nuisant à leur bon fonctionnement et pouvant les détruire. Ce sont surtout les hommes qui sont touchés par cette maladie et une personne sur 300 est porteuse de cette anomalie génétique. Si nous revenons au risque de carence, l'organisme est bien fait car il va réguler l'absorption intestinale du fer en fonction de l'état des réserves. Si on a des réserves faibles, davantage de fer sera capté au niveau des intestins. Le corps s'adapte aussi au type de fer qu'il reçoit. Il va donc s'adapter au fer non héminique. Donc quand on devient végétarien, il faudra une période d'adaptation à votre organisme. Demandez un bilan sanguin à votre médecin pour savoir où vous en êtes. Concernant les recommandations en fer maintenant. Donc pour déterminer les recommandations actuelles des besoins en fer, ils se sont basés sur les pertes obligatoires comme notamment chez la femme au cours des menstruations ainsi que sur le taux d'absorption intestinale. Il en ressort que les recommandations selon l'ANSES sont pour l'homme de 11 mg, pour la femme ayant des pertes menstruelles, faibles ou modérées également 11 mg, et les femmes ayant des pertes menstruelles importantes, la recommandation est de 16 mg. Pour les femmes enceintes et allaitantes, on est également à 16 mg. Parlons maintenant un peu plus de l'absorption. Donc il existe bel et bien une différence d'absorption entre le fer provenant de la chair animale, qui est du fer héminique, et le fer provenant du monde végétal et des œufs, qui est du fer non héminique. Le fer héminique a un taux d'absorption autour de 20% et le fer non héminique autour de 5-10%. Nous voyons ici que même le fer provenant de la chair animale n'est pas bien absorbé non plus. Ces taux peuvent varier en fonction de l'état de vos réserves. L'absorption sera augmentée si vos stocks de fer sont bas. Cela va dépendre également du contenu de votre repas. Il faut savoir qu'entre le fer d'origine animale et le fer d'origine végétale, la différence se fait au moment de l'absorption intestinale et une fois dans la circulation sanguine et dans les stocks, il n'y a pas de différence. Passons aux astuces pour augmenter l'absorption du fer. Donc la consommation de vitamine C augmente l'absorption du fer. Il sera donc intéressant de consommer un fruit au cours du repas, des légumes de préférence crus, car la vitamine C est sensible à la chaleur. Je vous invite à lire notre article sur la vitamine C sur le blog Devenir végétarien en 90 jours, qui vous présente les bienfaits de la vitamine C. La cuisson et la lactofermentation peuvent également augmenter le taux d'absorption du fer. Et attention, certains éléments peuvent interférer avec son absorption. On trouve le café, le thé. Il est donc important de décaler la prise de votre boisson en dehors des repas et pas juste après le repas. C'est le thé et ses tanins qui aura le plus d'effet. La présence de son, qui constitue en fait l'enveloppe du grain, de fibres, diminue un peu son absorption également. Il faut l'avoir en tête, mais ce n'est pas une raison pour ne pas consommer d'aliments apportant des fibres, comme les céréales complètes ou encore les légumes. En plus, la vitamine C pourra aider à sa bonne absorption pour venir un peu contrebalancer les effets des fibres. Tout comme avec les polyphénols ou les oxalates qui diminuent l'absorption et qu'on en retrouve dans certains fruits et légumes. L'excès de calcium et de zinc peuvent diminuer son absorption, ainsi que la présence d'acides phytiques que l'on retrouve dans les céréales complètes comme le riz. Mais il faut tout de même privilégier les versions complètes car il y aura plus de nutriments. Privilégiez le pain au levain car présence de phytases faisant diminuer l'acide phytique. La germination ou le trempage sont des techniques qui peuvent diminuer la teneur en acide phytique. Le microbiote intestinal permet la régulation du fer. En effet, des chercheurs ont mis en évidence l'interaction du microbiote sur l'absorption du fer. Et une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de notre flore intestinale, pourrait diminuer l'absorption du fer, pouvant entraîner des déficits et des carences en fer. Protéines végétales et fer. Donc pour comparaison, et pour 100 g cuits, en moyenne, un steak haché de bœuf apporte 2,6 mg de fer. Le tofu ferme et les lentilles vertes, c'est 2,5 mg. Les pâtes complètes, 1 mg. Le quinoa, 1,6 mg. Le sarrasin, 2 mg. Le seitan et le tempeh, 1,5 mg. Et si on consomme 2 œufs, c'est 2 mg. Et enfin, une vingtaine d'amandes vous apportera enfin 1 mg. Nous pouvons voir que les teneurs dans les aliments d'origine végétale et dans l'œuf sont assez similaires à un steak haché d'origine animale. Mais le fer végétal de l'œuf sera un peu moins bien absorbé, donc pensez à la vitamine C. Parlons maintenant de la supplémentation en fer. Si vous avez des doutes ou durant votre parcours pour devenir végétarien, il est important de faire une analyse de sang pour évaluer vos stocks de fer. Une supplémentation sera peut-être nécessaire pour repartir avec de bons stocks. En effet, si vous êtes très bas, même avec une alimentation omnivore, il faudra passer par une supplémentation. Les suppléments obtenus via votre médecin et par ordonnance sont beaucoup plus dosés que les suppléments que l'on peut acheter librement. N'oubliez pas que le fer est pro-oxydant et néfaste pour l'organisme en grande quantité, donc avant de prendre une supplémentation, il est important de connaître votre statut. Je vais vous donner quelques exemples d'aliments, mais vous retrouverez sur notre blog une liste vraiment beaucoup plus complète parce qu'il va être très compliqué et je pense très rébarbatif de tous vous les lister, sinon je vais vous perdre. Donc vous allez retrouver sur notre blog une liste avec par exemple des légumes comme les épinards qui apportent 2,1 mg de fer, les tomates séchées 9 mg, encore tout ce qui est choux, on est plutôt à 0,5, 0,4. Donc vous allez avoir différents exemples de légumes. Vous allez pouvoir comparer ça finalement avec ce que vous avez l'habitude de manger et les apports nutritionnels recommandés qui sont de 16 mg pour la femme et chez l'homme plutôt 11 mg. Donc on a également les pommes de terre, donc la pomme de terre nouvelle c'est 1,6 mg. Au niveau des légumineuses, ben on a la lentille qui est autour de 2,5 mg par exemple, le pois chiche 1,3 mg. Au niveau des fruits frais, c'est un peu plus bas. Si on prend la banane, 0,2 mg, le cassis, les fruits secs, pareil, on est sur des teneurs un peu plus élevées parce que du fait d'être séchés, en fait, il y a eu concentration. Donc attention de ne pas trop en consommer parce que même s'il y a beaucoup de nutriments, ils sont très sucrés. Les fruits à coque et graines oléagineuses, on n'arrête pas d'en parler sur ce blog, vraiment très très intéressante. Même si on n'en consomme que des petites quantités, il est vraiment intéressant d'en mettre un petit peu partout dans ses plats, comme les graines de chia qui apportent 7,7 mg, les noisettes 4,3 mg, les amandes 3,4 mg. Du côté des pâtes, du riz et des céréales, préférez tout ce qui est complet. On a le quinoa qui en apporte 1,6 mg par exemple. Au niveau du pain aussi, ça reste intéressant. Et enfin, on a tout ce qui est produits laitiers. Donc on a des teneurs quand même qui sont plus basses mais qui restent intéressantes pour contribuer aux apports de la journée, comme le fromage à pâte molle et à croûte fleurie type camembert avec 0,32 mg. Le fromage blanc, 0,15 mg. Lait de chèvre, par exemple, c'est 0,17 mg. Alors, toutes ces teneurs sont données pour 100 g d'aliments. Au niveau des produits sucrés, on va avoir le chocolat noir à plus de 70% de cacao, par exemple, qui en contient 11 mg. Bon, bien sûr, une quantité raisonnable, c'est plutôt 10 g de chocolat. Les œufs, on est à œufs au plat, 2,6 mg. Le tofu, qui est assez intéressant aussi, 2,4 mg. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'aliments, donc il faut vraiment varier les apports parce que les quantités peuvent différer. Donc maintenant, je vais vous donner quelques idées recettes. Alors ce sont des intitulés de recettes, hein, et vous trouverez plein de recettes sur internet avec le détail des ingrédients. Donc je vous propose un velouté d'épinards au soja, un chili sin carne, un wok de tofu aux légumes, des lentilles vertes aux œufs pochés et carottes, du houmous de pois chiche et crème de sésame, poêlée de légumes aux haricots blancs, tartinade de pois cassés, un tofu basquez, des falafels et sauce au fromage blanc, des pâtes aux girolles et haricots blancs, galettes de millet et enfin des œufs cocottes aux épinards. Et vous, quelle est votre recette favorite? Quelles sont vos astuces pour augmenter vos apports en fer? Faites-nous part de vos commentaires en bas de l'article sur le blog et nous serons ravis de vous aider et de découvrir vos recettes. À bientôt pour un nouveau podcast!